Podiaout, ficelle.
Bienvenue dans ce 9e épisode. Je l'ai appelé Entre deux eaux. Il est rare, lorsque l'on voit un attroupement dans la rue, de ne pas y prêter attention. Même si l'on ne voit que la foule qui s'amasse, les passants qui s'interrogent de loin sur les terrasses des cafés, on ne peut s'empêcher d'imaginer quelque chose. Un événement tragique est peut-être survenu, quelqu'un d'extraordinaire est peut-être apparu. Bien souvent, le temps nous manque pour chercher à comprendre quel événement a pu à ce point susciter l'attention générale. D'autres affaires nous préoccupent, on continue quelque peu ébranlé dans la même direction. Quand on y pense, il n'y a rien de plus vertigineux que de voir tous ces gens qui, vivant les uns à côté des autres, regroupés par affinité ou par besoin, puissent être ainsi réunis sur le même seuil. La ville devient toute petite. On a l'impression de pouvoir appréhender combien d'habitants vivent dans le quartier. L'attention se concentre sur les mots prononcés, sur les intonations, sur les gestes. L'architecture ne semble plus aussi haute, aussi étendue. Les autres rues, celles que l'on peut imaginer lorsque l'on connaît bien sa ville, n'ont pas l'air d'exister autrement que comme des conceptions de l'esprit. L'événement rend les lieux alentours aussi vides que le quotidien. On assimile finalement le quartier à la ville, cette dernière ne pouvant exister que comme l'au-delà du moment. On oublie les rues, les carrefours, les raccourcis. Peut-être ne reste-t-il que le relief du sol. On se retourne quelquefois pour voir si les forces de police n'ont pas la main lourde. On imagine que quelqu'un a prévenu tous les autres. On voit un passant pénétrer dans un bar, rameuter les clients, un autre faire de même sur une terrasse. On se dit que ce fut également le cas pour les snacks ou les paquis. On essaye de faire des déductions, d'observer, d'écouter les conversations. On en voit certains qui parlent, l'air d'en savoir mieux que les autres, et il y a aussi ceux qui ne se rendent compte de rien. On se demande dans quelle mesure les enfants prennent conscience d'un événement qui sort de l'ordinaire. On a dû en rater des choses quand on avait cet âge-là. On cherche dans notre mémoire et on ne trouve que des souvenirs reconstruits, pouvant tout aussi bien n'être que des rêves. N'empêche qu'on doit tous avoir en nous un souvenir réel quand même, vaguement précis quand même, d'un de ces événements collectifs urbains qui se seraient déroulés sous nos yeux d'enfant. Chez nous, c'était généralement au début de l'été que ça se produisait. On peut dire généralement parce que c'est arrivé 4 fois en tout. Et c'est toujours au même numéro que ça se passait, chez les Anetti, au 48. On dormait les fenêtres ouvertes avec les moustiquaires. Ça sentait la pluie d'été, celle qui tombe sur les trottoirs encore tièdes de la journée. Et souvent, au loin, on entendait gronder l'orage. La moiteur était telle qu'on ne trouvait pas le sommeil, alors qu'on avait école le lendemain. Ainsi, on devenait fou quand on entendait, comme un cadeau qui nous occuperait jusqu'au petit déjeuner, la sirène des pompiers s'approcher. Tellement s'approcher qu'on comprenait qu'ils avaient tourné à l'angle de la rue. La nuit moite et sans sommeil se transformait alors en spectacle. On se précipitait tous à la fenêtre de la chambre de Mathilde parce qu'elle était au 3e étage et que de là, on était vraiment aux premières loges. Dans la rue, on voyait tous les rideaux s'agiter, les lampes de chevet s'allumer et des têtes de voisins apparaître aux fenêtres, toutes grandes ouvertes. Chaque année où c'est arrivé, c'est le même rituel. Toujours on matait les bigoudis de la grosse Madame Grison à travers sa charlotte en plastique. Puis toujours on se moquait des pyjamas identiques des fichots du 51. Deux combinaisons noires et blanches, à rayures. Et tant d'autres visages que la lueur orangée des lampadaires déformait, qu'on avait l'impression d'une rue peuplée de nouveaux voisins, encore jamais croisés. Toujours on trouvait ça fabuleux. Après le spectacle des fenêtres, on attendait patiemment que, de leur voix grave, sautée du lit, les hommes sur le trottoir racontent l'histoire. On ne parlait pas, on ne riait plus, on les écoutait. On ne comprenait jamais tout, c'était en pointillé. En tout cas, on trouvait chaque fois étrange que seuls les maris sortent et créent l'attroupement autour du camion de pompiers stationné. Une nuit, on a entendu que c'était à cause d'une fuite d'eau. Une autre fois, une autre fuite d'eau. La troisième fois, le gaz. Et la dernière intervention à laquelle on est assisté, on n'en a jamais connu la raison. On sait juste que c'était pas grave. D'ailleurs, les gens ne sont pas restés très longtemps cette nuit-là. La foule était aussi moins silencieuse, comme un peu frustrée. Et on était autant frustrés qu'elle. Pas d'inondation, pas de fumée noire qui s'échappe des fenêtres, ni de rats qui se déversent par centaines dans les petites rues de notre petite ville. On voyait les grands sortir le nez dehors et regarder perplexes l'absence de tout événement, se jaugeant mutuellement pour voir qui d'entre eux accepterait de franchir le pas de la porte en chaussons et tanga slip, au risque de s'en retourner bredouille. On voyait les volets s'ouvrir à peine et se refermer instantanément sur des voiles qui en avaient profité pour s'échapper de leurs fenêtres. Il faisait chaud, il ne se passait rien. On s'était fait avoir, tout simplement. On s'est tous réveillés le lendemain avec l'impression étrange d'avoir gâché notre nuit, mangé notre petit déjeuner dans le calme, ce qui n'arrivait jamais après une intervention de combattants du feu. On a quitté la maison pour se diriger vers l'école, sans même accorder un seul regard à nos ennuyeux voisins, qui, comme si de rien n'était, commençaient leur journée. Nos relations avec les Zanetti ne furent plus jamais les mêmes. On a tous en nous ces petits bouts d'histoire qui joint forme un conte éphémère qui ne se raconte qu'à ceux qu'ils connaissent déjà. Une fable décousue que l'on raccommode ensemble, riant d'en rire encore. Du coup, au fil des années, on a transformé la quatrième venue des pompiers de chez nous en véritable chanson de Roland, avec des bébés qui tombent du huitième étage, des bigoudis enflammés et même une demande en mariage. Durant de nombreuses années encore, on s'étonna que Rita, notre voisine du 45, ait pu survivre après que le four des Zanetti soit projeté par l'explosion hors de la maison et s'encastre dans sa chambre, à 30 mètres en face. On se mentait, mais on n'a pas pu laisser ce vide. On n'a pas eu le choix. Une vie de quartier, ça s'entretient, sinon ça meurt, tout simplement. Il suffit de se balader dans les résidences où personne ne connaît personne pour s'en apercevoir. Les Dubat, qui ont emménagé au 12 il y a maintenant quelques années, nous en racontent encore de pas mal sur leur ancien appart. La nuit des Zanetti, ça les aurait pas choqués, eux. Une fois, Simon Dubat nous a même raconté que le couloir du 8e, en pleine heure de repas, était si silencieux qu'il a entendu une voisine du premier étage dézipper sa robe. Des histoires comme ça, ça nous fait rire ici, parce qu'on dit souvent que bientôt, on sera tous sourds comme des pots à force d'entendre les autres gueuler quand il manque du PQ. Bien sûr, on est plus lié par toutes ces manies qu'on déteste chez les autres et qui empiètent sur nos propres petits travers que par une quelconque amitié. Comme dirait Madame Timpani, l'amitié, c'est très surfait. Il faut dire que pour la seule qui appelle les flics pour des affaires de tapage nocturne, elle nous gargarise régulièrement des chants des plus infâmes. C'est comme ça qu'on vit ici, qu'on use le bitume et les briquettes avec nos caddies grinçants, que nos gosses crachent sur les hortensias roses et bleues délavées et que des yeux se perdent derrière les stores. Mais on voit aussi M. Caro Tenuto apporter tous les matins à Mme Abbott son journal après l'avoir lu, pour économiser. Ou la petite Léati promener le gros chien puant de l'ermite du 11. Ces petites histoires-là, pourtant si peu dignes d'intérêt, nourrissent mille et un ragots délicieux à l'heure du café ou entre deux taillages de haies. Bien sûr, on se tire au flanc et on adore ça, mais on sait aussi se liguer. Nous, contre le reste du monde, on est plus fort que les Bleus en 98. C'est comme ça que chez nous les bars restent fumeurs, que l'autoroute 83 passe loin, et que les politiques n'osent même pas regarder dans notre direction. On est comme qui dirait une force tranquille, toujours prêt à bouillir. Et c'est pas les yeux vitreux du vieux Bobby qui diront le contraire. Lui, il reste 23h30, 24h, adossé à une vieille chaise sur la terrasse de Jean. Parfois, il s'étire comme un chat, le dos rond, et il déroule une à une ses vertèbres dans un long craquement de soulagement. Et quand il commence à produire une suite de sons plus dégueulasses les uns que les autres, personne n'ose rien dire. Bobby, c'est l'épicentre de notre volcan, le grand trou noir qui peut devenir supernova, le gardien de la paix. On n'a toujours pas compris comment on se retrouve aujourd'hui sous des lampions de papier multicolores, accrochés à ces branches étranges, à fêter comme il se doit la musique langoureuse qui sied si peu au quartier. Le phénomène n'avait pas duré longtemps, juste le temps d'un printemps. Il faut dire que le vieux Bobby, chevillé à sa chaise, fut le premier touché. On avait bien remarqué que, jour après jour, il prenait racine chez Jean. Toujours est-il que du haut de son siège, peu à peu, millimètre par millimètre, imperceptiblement, de semaine en semaine, ses pieds ne touchèrent plus le sol. On remarqua alors que sa demi-heure de sommeil quotidienne se passait désormais là, assis, n'osant plus descendre de sa chaise aux pieds de bois usés, de peur de ne plus pouvoir y remonter. on se demanda quelle maladie le rétrécissait ainsi. Un matin, il n'était plus là. Sans doute avait-il succombé au mal, mais les habitants d'ici se moquaient bien d'en savoir plus. Désormais, seuls quatre hauts piquets brinque-ballants, tellement fins qu'on ne les remarquait pas, se disputaient la terrasse de Jean. C'est Léati, promenant le chien en plein midi, qui remarqua la grande ombre légère et leva les yeux. Jean sortit au même moment, et on s'attroupa devant l'événement. Impossible de distinguer la cime lointaine de cet enchevêtrement de tiges apparu aussi soudainement qu'un diable sorti de sa boîte. Cela ne préoccupa pas plus les gens du quartier, habitués au désordre, et on reprit le train-train banal et déprimant. Pourtant, l'ombre s'épaissit, et on décela de plus en plus de petites bandes vertes collées aux perches entremêlées jusqu'à ce qu'on reconnaisse enfin un arbre, orphelin, perdu au milieu du béton. C'est ainsi que ce grand végétal d'espèces non identifiées, nourri de pavés et de bitume, devint le maître du quartier, le point de mire, le signe de ralliement pour toutes les occasions de colère, de joie, de partage, de dispute, de cancan, de rendez-vous, de jeu, de palabres, de repos, de peine et de fête. En chantant ensemble ce soir sous les lampions, on se demande encore si le vieux Bobby survit toujours là-haut. Voilà, c'est fini. Je tiens à remercier Marion, Olivier, Maëlle et Thérèse Marie pour leur participation à l'écriture de ce texte. Sans oublier les musiciens de cet épisode, qui cette fois-ci n'étaient autres que le groupe Nibik. À la prochaine.